Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. J'accueille cette semaine sur In Power Céline Lazorte. Son nom sera connu pour certains d'entre vous, pour d'autres beaucoup moins. Céline Lazorte est sûrement l'une des plus grandes entrepreneurs françaises de notre époque. À la sortie de ses études, elle fonde Litchi, une plateforme de cagnotte en ligne que l'on a presque toutes et tous déjà utilisée pour le cadeau d'un ami ou le financement d'un projet, puisque c'est aujourd'hui plus de 10 millions d'utilisateurs que compte Litchi, et c'est devenu l'un des plus gros succès entrepreneuriaux français. Pourtant, Céline est plus que ce succès, plus que cette aventure entrepreneuriale, et même pour elle, cela a été difficile de redéfinir son identité lorsqu'elle a décidé de quitter Litchi quelques années après la vente de son entreprise. Comment progresser en tant que dirigeante, mais aussi en tant qu'humain? Comment rebondir après un projet qui nous a autant habité? Qu'est-ce que Résilience, le nouveau projet fondé par Céline et ses cofondateurs? Et pourquoi elle a choisi cette fois de s'entourer? Ce sont autant de sujets que l'on aborde avec Céline dans cet épisode d'InPower. Je vous rappelle que les épisodes sont désormais disponibles sur la chaîne YouTube du podcast, si vous souhaitez ajouter l'image à l'audio, et vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube ou alors à l'application que vous êtes en train d'utiliser pour recevoir gratuitement les prochains épisodes. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Céline. Bonjour Céline.
Bonjour Louise.
Bienvenue sur InPower. Je suis très heureuse d'échanger avec toi aujourd'hui. On avait déjà fait un petit live. Peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent, qui l'ont regardé. Et je sais que ça avait inspiré beaucoup de gens. Donc voilà, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites?
Avec plaisir. Donc je m'appelle Céline Lazorte et je suis entrepreneur. J'ai monté plusieurs boîtes et puis j'ai eu aussi pas mal d'engagements associatifs, notamment dans l'égalité femmes-hommes, l'accès au congé paternité par exemple. Mmh. Et puis plus récemment, un projet qui s'était appelé Protège ton soignant pour aider les soignants pendant la crise sanitaire. Et voilà. Et je suis aussi un peu investisseur, j'ai investi dans quelques boîtes.
Ok, c'est un profil hyper complet. Est-ce que quand tu étais enfant, tu te voyais plus tard comme ça, un peu faiseuse, j'aime bien ce mot, enfin slasheuse, tu vois, juste ce qui caractérise, j'ai l'impression que c'est l'action, quoi.
Je pense qu'enfant, je me voyais vraiment, c'est très étrange ce que je veux dire, mais j'étais vraiment dans un mythe de super-héroïne. Et je sais pas pourquoi, Wonder Woman m'a beaucoup marquée.
Ouais.
Et donc, ça, je trouvais ça très cool comme job. Et je me voyais, je crois, avoir une vie très libre et très joyeuse et faite d'aventures. Donc tu vois, ça c'était quelque chose qui m'interpellait et qui m'appelait. Mes parents sont médecins, toute ma famille est médecin, donc c'est vrai que j'ai beaucoup vécu dans le domaine de la santé, j'allais même dire dans le dogme
médical. Ouais.
Et dans cette idée que la santé doit être accessible à tous, ça m'a beaucoup interpellée. Mais en tout cas, c'est vrai que mes rêves de petite fille, c'était la liberté, l'aventure, pas forcément la création, mais en tout cas, une vie palpitante.
Écoute, je pense que le pari est relevé. Non, mais c'est fou, je trouve, à quel point ça peut façonner l'imaginaire quand on est enfant. Pour le coup, il n'y a qu'une super-héroïne, je crois, ou il y en a peut-être deux, trois, mais c'est vrai que ça peut accompagner. Et ça t'a pas, je sais pas, t'as pas senti que c'était trop parfois à certains moments, cette espèce de rêve difficile à atteindre où tu te disais, tu vois, t'as jamais eu peur? Parce que je trouve qu'il y a aussi un côté où, quand on est enfant, après ça dépend si jamais t'as des parents qui t'ont soutenu, etc., mais il y a un côté où on se dit, est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que je vais y arriver? Quand on a de grandes ambitions, tu vois, c'est dur, je trouve, parfois d'avoir tout le temps la motivation ou en tout cas la croyance au fait qu'on peut y arriver.
Alors, c'est vrai que moi, j'ai eu de la chance parce que je pense que j'ai été élevée dans une famille avec beaucoup d'amour, de présence. Honnêtement, j'ai jamais eu ce sentiment-là, enfant en tout cas. J'ai eu le sentiment parfois des difficultés scolaires, ça oui, beaucoup, mais une forme de confiance assez naturelle qui m'a été donnée par un environnement très bienveillant, à l'écoute. J'ai eu beaucoup ce truc de « tu seras ce que tu as envie d'être ». Et peut-être à la limite, tu vois, la seule performance qu'on m'imposait, parce que mes parents n'étaient pas du tout comme ça, mais c'était « si tu choisis un domaine, autant y aller à fond ». Mais j'avais pas beaucoup de pression de la part de mes parents, même au niveau scolaire et tout, ce qui fait que moi j'étais à la limite de l'échec scolaire. J'ai redoublé ma seconde, j'ai eu mon bac à leur pêche. Enfin, tu vois, heureusement, j'avais la chance d'avoir des parents qui m'ont quand même poussée. J'ai du coup pas eu trop de peur.
Ouais.
Au contraire, je les ai en fait assez bien maîtrisés parce que j'avais cet environnement très naïf, probablement bienveillant, des gens qui ont la chance d'avoir une famille qui donne la possibilité de faire des études, d'être favorisés, c'est évident.
Ouais, mais j'imagine que ça, enfin, parce que pour le coup, l'image que j'ai du monde un peu médical et tout, c'est un peu quand même, il y a une certaine forme d'élitisme, en tout cas de, voilà, on veut vraiment que son enfant soit le meilleur possible. Si je comprends bien ce que tu dis, donc toi, c'était toujours un peu ric-rac pour les cours et tout. Il n'y a pas eu de pression, toi, t'as jamais dit, surtout qu'en plus, j'imagine que, enfin. C'est encore le cas maintenant, mais ça l'était plus, je trouve, les générations avant nous, de, voilà, en France, il faut quand même la place au meilleur. Quand t'es un peu en difficulté scolaire, on te fait comprendre qu'il faut que t'aies de meilleures notes. Mmh. Toi, t'as pas vécu cette pression-là ?
Non, pas trop. Je pense qu'il y avait une forme d'ambivalence, c'est-à-dire que j'ai pas du tout eu de pression scolaire. Donc, ouais. Tu vois, le fait d'avoir des notes assez moyennes, voire j'étais toujours dans la catégorie du peut mieux faire, quoi. N'était pas un gros stress pour mes parents, et au contraire, ils s'en contentaient assez simplement. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même un truc de, voilà, si tu choisis quelque chose, tu dois le faire à fond. La vie est pas facile, donc faut que tu sois armé. Mais j'ai honnêtement pas eu trop de pression. Probablement, il y avait quand même une forme d'élitisme, je pense, par notamment, tu vois, la culture qui nous a été transmise par mon grand-père, qui était neurochirurgien, qui, tu vois, était un grand ponte médical, a créé le premier CHU en France, a accompagné la médicalisation des ambulances, a trouvé un nerf dans le cerveau qui porte son nom. Enfin, donc j'avais une forme de pression familiale par ça. Ouais. Je sais que je revenais, je sais pas, de voyage scolaire en Espagne, et j'allais voir mon grand-père, et il me racontait toute l'histoire d'Espagne, tu vois, il était de quelqu'un très cultivé, qui a introduit la culture générale à la fac en médecine, donc voilà, qui avait quelque chose de très fort par sa présence, donc qui impressionnait. Mais j'avais pas de pression par mes parents, tu vois. Mmh. C'était plutôt, bon, bah écoute, il faut que jeunesse se fasse. C'était quand même assez cool, je dois dire. Mmh. Et ce qui m'a du coup plutôt donné l'envie de, tu vois, m'en sortir, enfin, d'être à la hauteur de leurs attentes. Et puis, il y avait par contre la notion du travail, ça qui était assez forte. Ma maman avait des magasins en parallèle de son activité de médecin. Et donc, tous les samedis, on était au magasin. Et tu vois, depuis l'enfance, moi, j'ai vendu des pulls, j'ai replié des colonnes de pulls.
Putain, je l'ai fait, c'est tellement dur.
Ah ouais, c'est tellement... ouais.
Dès que tu vois là, quelqu'un déplacer le vêtement, t'as trop le seum, il faut y retourner.
À être, tu vois, devant la porte, vérifier que, voilà, il y avait beaucoup de, parfois, de monde dans la boutique, donc il n'y ait pas de vol, etc. À 14 ans, c'était parti pour les babysitting. À 17 ans, je faisais des emplois administratifs à la mairie. Enfin, ça, il y avait une très forte notion du travail. Ouais. C'était pas question que je passe 2 mois l'été à me tourner les pouces.
Ouais, bah ça, franchement, c'est vrai que c'est hyper formateur.
Mais ça m'a rendu énormément service.
Ouais. Ouais. Qu'est-ce que t'en tires, peut-être, comme grand enseignement de ces petits jobs que t'as pu faire au cours de ton adolescence ?
Ah bah moi, ça m'a tout appris, parce que d'abord, ça m'a donné confiance même, tu vois, quand j'ai découvert le monde de l'entreprise à 20 ans, finalement, de par les stages, les premiers stages que j'ai fait et tout, en fait, j'avais déjà une expérience professionnelle. Elle était évidemment, voilà, ce qu'elle était, mais ça m'avait donné confiance, tu vois, j'avais des codes, je comprenais, donc ça, c'était génial. Je pense que ça m'a donné aussi le plaisir de l'indépendance économique. Mmh. C'est vrai que moi, j'aimais bosser, parce que en fait, du coup, ça me donnait la possibilité d'être libre. Mes parents étaient assez généreux, mais en même temps assez stricts dans le, voilà, on te donne de l'argent tous les mois, ça ne durera pas, c'est pour tes études, il faut que tu fasses un prêt pour les financer, on peut t'aider, mais voilà, tu vois, il y avait une forme de deal de tout le monde doit faire un pas, quoi. Donc ça m'a apporté beaucoup, je pense que ça m'a apporté une forme de rigueur, de la contrainte aussi, hein,
ouais,
parce que quand t'as 18 ans, je me souviens des emplois administratifs à la mairie que j'avais fait à la mairie de Toulouse, bah en fait c'est con, mais il faut se lever, tu vois, faut se confronter à l'univers de l'entreprise, à avoir des deadlines, à recommencer quand ça va pas ce que t'as fait, enfin voilà. Donc ça a été très très formateur pour moi.
Ouais. Et donc, tu arrives à 18 ans, tu as ton bac. Comment est-ce que tu décides ce que tu veux faire après ?
Bah, alors, c'est marrant parce que, tu sais, parfois, on comprend mieux les choses en regardant en arrière. J'ai beaucoup hésité à faire médecine. Je ne m'en sentais pas capable. Je pense qu'il y avait une forme quand même de pression familiale, pas volontaire, mais induite par le fait que c'est vrai que voilà, j'avais 3 générations de médecins chez moi. Mon oncle était doyen de la fac de médecine. Mon grand-père l'avait été avant. Mon oncle, mon grand-père et mon père enseignaient en première année de médecine. Enfin, tu vois, ça me paraissait être un truc genre intouchable.
Ouais, le chemin tout sera, c'est quoi.
Donc, je me suis dit, bah non, surtout pas. Et moi, j'avais une passion qui était depuis très jeune, qui était Internet. À l'époque, c'était une passion. Maintenant, ça paraît logique de vivre avec Internet, mais à l'époque, ça l'était moins. Et donc, je je voulais absolument, et j'étais très attirée par les maths, et donc je voulais absolument travailler dans le domaine d'Internet. Je savais pas bien quoi, ni comment, ou de l'informatique, etc. Et donc, j'ai fait une classe prépa à Epital, école d'ingénieur en informatique, parce que, en fait, c'est vrai que pour mes parents, bah, si tu faisais pas la fac, pour eux, c'était vraiment l'enseignement, on va dire, royal. Tu voulais être ingénieur, ah, peut-être, voilà, faut faire une prépa en école d'ingé. Bref, voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Mais c'est vrai que ça a été beaucoup induit par ma découverte du net, et puis aussi quelques figures que j'ai vues, et notamment une qui m'a beaucoup marquée, c'est Oriane Garcia. Toi, tu sais pas qui c'est,
non.
Oriane Garcia.
Non.
Qui était la fondatrice de Caramel. Caramel, d'accord. Tu sais ce que c'est ou pas?
Alors, je sais que c'est une boîte importante. Ouais. Tu vois, le nom, it rings a bell. Mais franchement...
C'était le premier lecteur de mail, en fait, qui existait, d'accord. Français.
Ouais.
Donc, il n'existe plus, mais qui était avec Hotmail, tu vois. On avait soit une adresse mail Caramel, soit Hotmail. Et donc, je l'avais vue dans un interview sur M6, sur Capital. Et elle racontait le développement de sa boîte, son projet. Et en fait, je m'étais dit, mais c'est ça que je veux être, tu vois. Et d'ailleurs, je ne me suis pas dit, c'est son job que je veux être. Je me suis dit, c'est elle que je veux être. Tu vois. Ce truc de s'associer à quelqu'un, tu vois. Elle avait l'air hyper libre, hyper entreprenante, plein de rêves, les réalisant, conquérante. Enfin, il y avait un truc, ça m'avait vraiment séduit. C'est vraiment ce rêve-là que j'ai poursuivi.
Ouais, non, mais c'est vrai que parfois, il y a des moments qui nous marquent.
Ouais.
Et ça, je trouve que c'est assez incroyable, le pouvoir du cerveau. Quoi. Ça peut être une phrase que quelqu'un va dire. Ça peut être une phrase qu'on va lire dans un livre. Il faut pas sous-estimer, ouais, quoi, le pouvoir en effet des mots d'une personne, et je pense que là pour le coup les réseaux sociaux ouvrent vachement le champ des possibles. Donc t'entres en prépa d'ingénieur, après en école d'ingénieur.
Et non, j'abandonne en cours de route.
Ah, tu abandonnes en cours de route la prépa, ça te plaît pas?
Je fais les deux années de prépa,
ouais,
et je rentre pas en cycle ingénieur, je trouve que c'est trop technique.
Ouais.
Et donc je me réoriente à la fac pour le coup, et je fais un master 2 de gestion de projet informatique.
D'accord, ok. Et du coup, tu finis tes études là-bas, ou après tu décides?
Non, et je continue encore. Alors du coup, pendant mes années de fac, donc là, vraiment, c'est hyper cool parce que j'ai 12 heures ou 15 heures de cours par semaine. Donc là, c'est génial parce que je bosse tout le temps. Donc j'ai commencé à bosser vraiment juste après ma prépa, et donc j'ai enchaîné les jobs. J'ai bossé en agence de com, j'ai assisté à un député maire pour faire toutes ses presses, ses discours, etc. J'ai bossé pour Orange, j'ai vraiment, pendant toutes mes années de fac, tu vois, je ne faisais que bosser. Je cumulais les conventions de stage, c'était un peu Joe la bidouille, quoi. Je faisais de la gestion de projet, je prenais à la fac, j'organisais des projets avec quelqu'un qui s'occupait du dev, quelqu'un d'autre du graphisme, donc vraiment, tu vois, une sorte de mini entreprise, quoi. J'aurais adoré avoir le statut d'étudiant entrepreneur si ça avait existé, ou ce genre de choses là et puis ensuite je me dis quand même, j'ai pas des super diplômes, en France on valorise beaucoup les diplômes, et surtout j'ai aucune formation économique, financière ou marketing, donc ce serait pas mal d'essayer de postuler pour un master spécialisé en école de commerce, et donc à ce moment là je finissais la fac, j'étais embauchée, j'étais en CDI dans une start-up qui s'appelle Aika, et je m'occupais du marketing, enfin plutôt gestion de projet, marketing, etc., produit. Et je voulais voir d'autres choses, et donc j'ai déposé ce dossier pour entrer en école de commerce pour faire une dernière année, et donc j'ai fait, et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de Litchi. Voilà.
Ok, donc quand même parcours un peu sinueux.
Complètement sinueux.
Au moins, tu as touché à pas mal de choses.
Non, mais moi j'assume complètement que ça a été presque chaotique, tu vois, c'est-à-dire que je savais pas très bien. En fait, j'avais du mal à trouver la limite entre je veux bosser dans l'univers du web sans forcément être moi-même développeur. Ça m'a beaucoup aidé d'avoir des compétences techniques, même encore aujourd'hui. Tu vois, c'est un métier, un univers que je comprends bien. Maintenant, je ne fais pas des lignes de code, mais je comprends comment on crée une boîte tech, comment on crée une interface, quels sont les enjeux, comment on architecture, etc. Et en même temps, je n'étais pas sûre, tu vois, de vouloir être ingénieur. En même temps, je voulais travailler dans ces secteurs-là. Puis, ce n'était pas évident. Il n'y avait pas vraiment de formation. Et je voyais bien quand même que tout ce qu'on regardait, c'était les diplômes, quoi. Donc, je m'étais dit, bon, il faut que j'arrive à un peu tracer ma route dans tout ça.
Ça a changé pour toi, ça, ou pas, le fait qu'on regarde les diplômes?
Le fait d'en avoir un, ça a beaucoup changé, malheureusement, les choses.
Non, mais est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, on est encore aussi regardant?
c'est difficile à dire. Je pense malheureusement que oui. Franchement, de façon très transparente, moi, c'est un truc que je ne regarde jamais. Voire même, j'avais été assez extrême parce que je voulais plutôt ne pas recruter des gens de grande école. Alors, bon, j'ai mis un peu d'eau dans mon vin avec le temps. Mais je pense quand même que c'est un truc qui est toujours très valorisé, oui, en France, malheureusement.
En fait, je pense que ça dépend vachement du milieu. Parce que tu vois, au micro d'InPower, pour le coup, voilà, les grands dirigeants que je peux avoir, les grandes dirigeantes, elles me disent toutes pareil que toi. Et même moi, pareil, je regarde pas du tout ça. Et je trouve que c'est tellement peu significatif au regard de la personnalité qui fait beaucoup plus. Mais en fait, c'est vrai que je pense que c'est des cas à part parce qu'on est dans l'entrepreneuriat et qu'on est des structures un peu agiles. Mais dans les grands groupes, ils doivent rendre des comptes. Et puis, limite, je crois que c'est limite proportionnel à ton salaire. Enfin, c'est
sûr.
Assez dingue.
En fait, ta grille de salaire, elle est en fonction de ton école. Ouais.
C'est dingue quand même.
On est à la limite de la caste quand même.
Non mais c'est ça, parce que quand on y pense, c'est absurde. Ouais. Enfin, je veux dire, tes compétences ne sont pas liées à l'école que t'as faite. Enfin,
et puis toutes les soft skills, elles sont pas du tout valorisées. Tu vois, du coup.
Soft skills, pour le coup, qu'on apprend pas du tout assez, je trouve.
Ah bah pas du tout, quasiment très peu en tout cas. Ouais. Ou pas suffisamment, mais même au-delà des écoles, même. Tu vois, moi je m'intéresse beaucoup à l'éducation parce que j'ai un petit garçon de 2 ans. Je trouve que c'est des choses qu'on ne valorise pas du tout dans le parcours scolaire. Le fait de savoir s'exprimer, la bienveillance, l'écoute. Et pourtant, c'est probablement ça qu'on utilise le plus en entreprise, la créativité. Tu vois.
C'est quoi les soft skills qui t'ont le plus aidé dans ton parcours ou au cours de ta
c'est
vie?
La créativité.
La créativité Et est-ce que tu te considérais comme telle, tu vois, au sortir de tes études?
Alors, c'est très marrant, j'ai mis très longtemps à prendre conscience du fait que j'étais quelqu'un de très créatif. Mais je pense que j'en ai pris conscience, tu vois, il y a 2 ans peut-être. C'est que j'étais toujours très attirée par le monde de l'art, par la peinture, par le fait de dessiner. Mais je ne m'étais jamais rangée dans la catégorie créative. Pour moi, j'étais rangée dans la catégorie, même si je devais en avoir une, c'est matheux, tu vois.
T'as lu Mindset de Carol Dweck?
Ah non, je l'ai pas lu.
Ah bah lis-le. Voilà, désolée, je coupe souvent la parole. Ah bah je vais me calmer.
Non, mais t'as raison. Je vais surtout le noter avant qu'on parte.
Je te considérais comme telle.
Tu vois, moi j'étais plutôt dans la catégorie, limite des scientifiques, j'en sais rien, ou faire des rationnels, tu vois. Et puis c'est vrai que j'ai beaucoup aimé les maths quand j'étais plus jeune, bref. Et puis donc il y a 2 ans, j'ai quitté l'aventure de Litchi. Et c'est assez marrant parce que, tu vois, moi, j'y ai passé 10 ans, de l'âge de 26 à 36 ans. Et en partant, j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir enlevé ma cape de super-héros et de l'avoir mise sur les épaules des personnes qui ont repris la suite en tant que dirigeante, donc Alix et Romain. Et du coup, tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, qui je suis, tu vois? Si je ne suis pas Litchi, et alors qu'en plus, c'était une boîte que, au démarrage, j'ai beaucoup personnifiée, pour plein de raisons, mais qui je suis, moi, Céline, si je ne suis pas Litchi? Et même souvent, parfois, les gens m'appellent Litchi, tu vas me dire ah c'est toi Litchi ou Céline de Litchi, tu vois, c'est un truc qui m'exaspère,
c'est horrible, c'est une famille Lazar, quoi, tu vois,
ou Céline si tu veux, mais et donc tu vois et revenu assez naturellement par la pérégrination, le fait de prendre du temps pour soi, de voyager, j'ai eu cette chance de me dire ah mais en fait je suis quelqu'un de très sensible, de très créative. Et il y a pas très longtemps, donc comme j'ai remonté une nouvelle boîte, Résilience, je me suis dit là je vais faire les choses un peu différemment, je vais prendre un coach, tu vois, chose que des entrepreneurs font beaucoup. Et donc le coach d'entreprise m'a proposé de faire un TMA, c'est un test qui en gros voit tes talents profonds. Et le truc qui ressortait le plus, c'est que j'étais quelqu'un de très créatif, tu vois. Mais il a fallu, tu vois, que je fasse tout ce cheminement pour en arriver à prendre conscience. C'est difficile en fait d'apprendre à se connaître. Je pense qu'on passe une vie à se comprendre et,
carrément. Et à se découvrir. Mais je me suis toujours demandé en effet ce qu'apportait un coach, et c'est vrai que de l'extérieur ça donne assez envie. Bon, après je pense faut tomber sur des personnes vraiment compétentes et surtout bienveillantes. Ça t'a apporté quoi de travailler avec ce coach? Avant t'avais jamais fait appel?
J'avais jamais bossé avec des coachs. Et en fait, j'étais bête. Mais heureusement, je m'en suis rendu compte.
Voilà, jamais trop tard.
Exactement, pour changer d'avis. Et donc, je continue. Là, tu vois, je le vois entre une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, ça dépend. Et j'ai pris conscience que le rôle de dirigeant, c'est quelque chose qui s'apprend. Et c'est un métier. Et il y a des compétences et il y a, tu vois, des outils. Et que quand tu ne les as pas appris à l'école, quand tu n'as pas un livre en permanence à côté de toi, genre comment je structure mon COMEX, comment je gère une difficulté financière, RH, etc., c'est aussi bien de s'adresser à quelqu'un qui a développé des méthodes, etc. Et c'est aussi un accompagnement personnel. Donc moi, je trouve ça absolument passionnant. Je pense que ça m'enrichit énormément, que ça nous permet de gagner beaucoup plus de temps pour la boîte et moi, tu vois, de perdre moins de temps.
Ouais. Non, j'avoue que ça doit être assez, assez fascinant, encore une fois. Oui, en fait, je vois ça un peu comme une capacité à continuer à apprendre et à grandir. Bien sûr, même si quand on est livré à soi-même et quand tu l'avais pas, tu vois, au final, tu t'en es quand même bien sorti. Mais bon, c'est plus rassurant peut-être d'avoir quelqu'un où tu dis... Bah voilà, parce que c'est vrai que peut-être que tu pourras nous parler de ça aussi, mais 10 ans à la tête de Litchi, pas seul, mais en tout cas solo founder, il y a un petit côté, j'imagine, où parfois tu as dû être un peu tu as pris sous la charge de tout ce que ça représente. Et en fait, comment tu faisais quand tu as. Tu demandais à qui, tu vois, quand tu avais des questions, des doutes
Non, bien sûr, de la charge et même parfois de la souffrance que ça génère. Hein.
Ouais.
Avec évidemment beaucoup de recul, j'ai conscience que tu vois, c'est une situation très privilégiée. Mais effectivement, oui, d'abord, on n'est pas bon sur tout. C'est d'ailleurs pour ça que la nouvelle boîte que j'ai créée, je l'ai cofondée et on est en co-CEO avec Jonathan. Donc c'est un choix assez extrême, mais qu'on a assumé, dans lequel moi, je me retrouve beaucoup plus libre, en fait, parce que je suis beaucoup plus épanouie sur les sujets sur lesquels je me sens à l'aise et si tu vois qui sont mon champ de compétences et que j'aime. Souvent, on est bon dans ce qu'on aime, quoi.
C'est clair.
Donc, c'est vrai que mon aventure chez Litchi, elle était passionnante et j'ai eu la chance d'être entourée de gens exceptionnels, d'avoir construit une équipe qui restait dans le temps, beaucoup à mes côtés, mais je me suis sentie très seule et je me suis sentie parfois de devoir endosser un rôle, tu vois, et une forme de responsabilité, de choses sur lesquelles j'étais pas forcément à l'aise. Parfois plutôt, je l'ai fait dans la souffrance parce que je me suis dit faut bouge-toi le nez, faut y aller, quoi. Et comme j'ai une forte je pense résilience et capacité, tu vois, à travailler et même à probablement à souffrir, donc je l'ai fait comme ça, mais du coup je l'ai fait the hard way, tu vois. Pas fait et d'ailleurs c'est ce que j'aspire aujourd'hui avec cette nouvelle boîte, c'est le faire de façon plus, tu vois, probablement plus ronde, plus douce, plus épanouie, à un rythme différent, et c'est la chance aussi que j'ai, c'est avec beaucoup plus de moyens et donc du coup c'est plus facile.
Ouais, non, je comprends moi. À chaque moment de vie, je pense que voilà, c'est
et j'ai aucun regret parce que j'ai énormément appris. Mais c'est vrai que je me suis souvent sentie seule et parfois je me suis dit et d'ailleurs j'ai pas répondu à ta question, comment je faisais dans ces cas-là. J'ai cette chance extraordinaire qui est que la famille, l'écosystème des entrepreneurs est assez soudé, assez ouvert quand même, et que du coup je me suis toujours tournée vers mes pairs. J'ai toujours pris contact avec d'autres entrepreneurs, soit que je connaissais bien, soit que je connaissais pas, pour demander de l'aide et comprendre comment eux ils avaient fait. Donc tu vois, c'est souvent les gens qui sont un peu à l'étape d'après toi, et d'aller la rechercher, de leur dire bon ben tel et tel point là, genre comment je le gère, parce que c'est rude. Et en fait ça m'a énormément appris, et puis maintenant il y a même des associations, tu vois, qui ont finalement un peu fédéré ça. Donc je fais notamment partie du Galion, et moi les moments au Galion c'est une sorte de, tu vois, là je sais que chaque année j'y vais au mois d'octobre, je fais un Galion break et j'y pense déjà maintenant en me disant ah génial, tu vois, ça va être une sorte de moment où j'apprends, où je me nourris des autres, et ce que j'ai beaucoup toujours aimé avec les entrepreneurs, c'est qu'il y a une forme, la plupart du temps en tout cas, de sincérité dans ce qu'ils vivent, dans les difficultés, et en fait ça c'est génial parce que tu te nourris comme ça, quoi. Enfin, en tout cas moi c'est par l'expérience des autres que ça m'a permis d'apprendre.
En effet, comme tu dis, s'ils sont passés par des étapes, toi tu vas t'es en train d'affronter et c'est vrai que en fait je pense, enfin parce que je pense de l'extérieur tout le monde n'a peut-être pas conscience que le monde de l'entrepreneuriat est assez ouvert et beaucoup n'osent pas demander, etc. Mais en fait c'est vrai que en y pensant c'est un lieu dans la majorité bienveillant. Après je pense qu'il y a aussi quand même ça dépend vachement de peut-être jamais vous avez des amis en commun ou des personnes que vous connaissez, parce que bon j'ai des histoires où quand même il y en a qui sont moins sympathiques, où il y a parfois un peu de concurrence, quoi, mais franchement c'est cool de savoir que toi voilà, il y a des personnes qui sont vraiment qui t'ont vraiment tendu la main, et dans tous les cas après c'est vertueux, quoi, toi tu tends la main aussi à d'autres. Bon, je me demande qu'il y a des personnes qui... Je vais refaire ma phrase. Je pense qu'il y a des personnes qui se demandent ce que c'est Litchi. Donc, même si on ne va pas y passer trop de temps, parce que bon, je trouve qu'il y a un côté où je me mets à ta place. Et moi, j'aimerais pas continuer à parler d'un truc où... Enfin, tu vois, au final, c'était un peu une autre vie.
Ouais,
et...
mais ça fait partie de mon histoire.
Ouais, mais donc voilà, pour les personnes curieuses, en tout cas, tu peux nous dire juste ce que c'est et voilà comment tu l'as créé et comment ça s'est développé.
Donc Litchi, c'est un site qui permet de collecter de l'argent à plusieurs, donc une cagnotte en ligne, donc c'est utile par exemple pour un cadeau d'anniversaire groupé, un événement entre amis, un week-end, un mariage ou un événement solidaire, un proche a perdu son vélo, on va essayer tous ensemble de lui racheter, et parfois des événements de grande solidarité aussi, on l'a vu pendant le Covid, souvent Litchi ça rythme aussi, ça bat aussi au rythme de la nation, donc c'est vrai que quand il y avait eu les attentats, il y a eu beaucoup de cagnottes mettre sur Litchi, quand voilà. Donc c'est devenu une sorte de phénomène de société qui m'a complètement dépassée. Ça, je l'ai créé en 2009, donc je suis sortie de mon école en juin 2008. Et puis voilà, il m'a fallu le temps de comprendre comment on crée un service bancaire, comment on crée une entreprise, comment on développe un site web, etc. Donc ça s'est lancé en novembre 2009. Et j'ai lancé une deuxième activité qui s'appelle Mangopay en mai 2013, qui est une solution de paiement pour les marketplaces, plateformes de crowdfunding ou de consommation collaborative, donc qui permet de faire en fait du paiement tripartite. Donc c'est assez à part, mais en fait c'était un besoin qui n'était pas du tout répondu par les banques ou les solutions de paiement classiques. Et donc j'ai dirigé les deux activités que j'ai revendues en 2015 à Crédit Mutuel Arkéa, et je suis restée à la tête jusqu'en 2019 où j'ai quitté complètement 100% l'opérationnel. Et c'est 10 ans d'une aventure humaine extraordinaire, ouais, et très enrichissante et très enfin, franchement vibrante, quoi.
Ouais. Tu peux nous parler de la première année, parce que en plus, ce que je trouve, ce que j'admire beaucoup dans ton parcours, c'est le côté où tu détenais pas forcément la tech, tu vois. C'est que même si tu avais touché à l'informatique, t'étais pas t'étais pas Zuckerberg qui a inventé Facebook et où il y a que lui qui pouvait le coder, tu vois. T'as eu une super idée et t'as tout mis en œuvre pour qu'elle prenne vie, mais sans que tu sois la seule à pouvoir lui donner vie, mais tu as été celle en tout cas qui l'a développée. Comment t'as fait ? À qui t'as fait appel au début, une fois que t'as eu l'idée de cette solution assez brillante quand même de paiement ?
Écoute, c'est vrai que c'était un peu la galère, je me souviens très bien. Donc je vivais en coloc et donc j'avais aucun réseau professionnel, enfin en tout cas entrepreneurial. J'avais mes expériences passées, mais rien qui soit très proche finalement de l'idée d'entreprendre. J'ai commencé un peu naïvement en dessinant à ce à quoi pourrait ressembler Litchi, à chercher s'il n'y avait pas des aides, et notamment en fait j'ai eu assez vite une aide de la BPI.
Ouais.
À l'époque, ça s'appelait Oseo, mais c'est exactement la même chose, donc de 20 000 euros, qui m'a permis en fait d'initier le projet. Donc ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier, tu vois, pour démarrer le projet. J'ai trouvé un développeur en freelance qui m'a aidé à faire la première version de Litchi, et donc j'en suis arrivée à un stade où je me suis dit, maintenant il faut que je le teste, et donc je l'ai testé avec mes copains d'école, d'enfance, les gens auxquels j'avais accès, quoi, puisque j'avais pas de budget marketing, j'avais pas tout ça. Et je pense que la bonne idée, ça a été aussi de faire de la presse, en fait, puisque c'est vrai que c'était pas du tout connu, le système de cagnotte en ligne, le crowdfunding n'existait pas, et en fait j'ai trouvé un filon qui était une porte assez facile à ouvrir. C'était que la presse aimait bien parler des jeunes entrepreneurs et surtout des femmes, et donc c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, puisqu'on s'est beaucoup fait connaître par la presse. Donc ça demandait beaucoup de temps et d'énergie, mais pas forcément de budget, puisqu'il suffisait de prendre son téléphone ou d'envoyer un mail, etc., d'envoyer un communiqué de presse, et voilà comment démarrer les premières années. Et puis ensuite le lancement officiel du site, recrutement des premiers collaborateurs, première levée de fonds. Donc là, comment on fait pour lever de l'argent? Donc tu vois, je demandais autour de moi quel est le montant maximum. Je me souviens que j'avais même des barrières psychologiques, tu vois, c'est genre combien je peux lever. Moi, je m'étais dit, c'est quoi le maximum d'argent que je peux demander? Tu vois, on est vraiment à des réflexions comme ça. Puis voilà, son expérience se construit et l'ambition grandit avec.
Qui c'est les premières personnes que tu as recrutées, les premières personnes qui ont commencé à travailler avec toi en dehors du dev?
Alors, la première personne que j'ai recrutée, c'est notre CTO, Laure, qui est toujours CTO de Mangopay et qui donc a maintenant, je pense, 11 ans de boîte derrière elle. Et le premier stagiaire, c'était Mathieu, qui est assez vite devenu CPO, donc Chief Product Officer. Et il se trouve que dans Résilience, mon nouveau projet, c'était aussi mon cofondateur. On est 4 cofondateurs. Mais donc, c'est assez marrant parce que, tu vois, j'ai repris un peu les mêmes, les mêmes codes et mêmes fonctionnements.
En fait, je pense que tu noues des liens aussi tellement forts avec ces personnes avec qui tu es là depuis le début. J'imagine qu'au début, en plus, vous faisiez tous ensemble. Quoi. C'était vraiment... Et qu'est-ce qui t'a... parce que je me dis, a priori, ça te coûtait rien, Litchi, vu que c'était... dans le sens où c'était pas un produit, t'avais pas de fonds avancés. Qu'est-ce qui a fait que t'as voulu lever des fonds quand même?
Alors, ce qui coûtait, c'était les salaires. C'est 80% de la charge, c'était des salaires. Et après, en fait, ne serait-ce que d'un point de vue, tu vois, de la légitimité, il fallait de l'argent pour montrer qu'on avait les capacités à être sécurisé, pouvoir financer nos besoins juridiques, les salaires de l'équipe de dev et puis de l'équipe même tout court. pour le mien au bout d'un moment, parce qu'il a bien fallu que je me paye, parce que l'autorité parentale, elle avait dit c'est un an, mais pas plus.
Ouais.
Et donc c'était 80% ouais, des salaires.
Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est une vraie réalité, je pense. En plus, comme tu n'avais pas eu de travail en CDI avant, si je ne me trompe pas.
Si j'en avais eu un, mais.
Tu n'as pas eu de rupture conventionnelle.
Non, j'avais pas, malheureusement pas eu de rupture conventionnelle, puisque j'avais. À l'époque, surtout, ça fonctionnait pas de la même manière. Donc, en fait, tu quittais un job et puis voilà, t'avais pas de chômage.
Ouais.
Donc, j'avais quelques économies qui m'ont permis de démarrer d'ailleurs Litchi. Mais en fait, j'avais besoin de mes parents pour vivre tous les mois. Donc, on s'était mis d'accord sur une somme d'argent qui était exactement la même que quand j'étais étudiant, qui était quelques centaines d'euros, qui me permettait de payer mon appart en coloc et tu vois, des pâtes et des bières. Mais
ça n'a qu'un temps, c'est clair. Franchement, je me dis, ça doit être quand même assez dingue d'être parachuté dans ce monde-là, voilà, en sortant de tes études. Je ne me rends pas compte à quel point c'est allé vite, mais est-ce que tu peux nous dire, en gros, peut-être, quelles ont été les principales difficultés auxquelles tu as dû faire face pendant ces 10 années et un peu plus chez Litchi ?
Ah, Louis, ça en a pour combien de temps ?
Ah, allons-y, non, mais je trouve que c'est tellement important de parler de ces moments-là.
Il y en a eu plein. Je trouve que la phase de démarrage est assez difficile parce que t'es beaucoup dans le noir, quoi. Enfin, moi, j'avais vraiment l'impression de marcher dans une forêt avec les yeux bandés, de me dire « Ah, où je vais ?» Ce que je revis là, d'ailleurs, avec résilience, mon nouveau projet, c'est-à-dire que ces moments d'inception, quoi, elles sont difficiles parce que tu es vraiment dans une forme de création et en même temps, de choses, tu vois, en tout cas pour Litchi, qui n'existait pas du tout. Donc, j'avais aucun... Tu vois, je pouvais pas copier-coller ce qui était fait à côté, aux US, etc. Non,
il y avait d'ailleurs.
Rien qui... Non, mais oui. Mais du coup, ça me posait beaucoup de questions de voilà, quel doit être le parcours client, tu vois, comment tu crées, est-ce qu'on fait tout sur une page, est-ce que c'est fait en plusieurs étapes, comment tu payes, enfin tu vois, ça posait beaucoup de questions sur le user experience et puis l'interface que tu dois créer, etc. Donc ça a été une vraie première difficulté, je pense, la phase de conception et d'en arriver à un premier POC. Évidemment, la phase la plus difficile, c'est d'arriver à trouver une forme de rentabilité, tu vois, pour un projet sur lequel il faut beaucoup de volume, puisque, tu vois, le chiffre d'affaires généré par Cagnotte, c'est des petits sous que tu associes les uns aux autres. Donc, il faut faire quand même beaucoup de volume. Et donc, ça, je pense que d'avoir trouvé une forme de viabilité du projet et de l'entreprise a été une phase évidemment difficile. Le développement international, tu vois, quand on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin, qu'il fallait y aller, mais par quel bout on prend, en fait, tu recommences. C'est tout à zéro, tu vois, moi j'ai recommencé à l'Allemagne from scratch en faisant des allers-retours toutes les semaines, seule, je prenais à 6h du mat un EasyJet, j'arrivais à 9h, j'enchaînais des rendez-vous toute la journée, je dormais dans un hôtel un peu pourri, je bouffais un kebab, enfin vraiment quoi, et ça j'ai refait ça, la même chose en Angleterre et ainsi de suite, enfin t'as un truc vraiment, tu prends ton bâton de pèlerin et tu vas, et en même temps c'est très joyeux parce que tu vois, tu fais plein de rencontres, c'est une vie très riche, c'est
jamais... des aventures t'en as.
Je voulais des aventures, exactement, j'ai été écoutée et entendue. Et puis, après, les phases de levée de fonds sont toujours des phases difficiles parce que c'est des phases challengeantes. Et en même temps, il faut vraiment, tu vois, la levée de l'argent, c'est vraiment répondre à un certain nombre de critères. Et donc, il faut rentrer dans le jeu et connaître, en maîtriser les codes. Il y a eu des moments durs, évidemment, où on a frôlé le sol, quoi. Tu vois, où j'ai des moments où je me suis arrêtée de me payer, où je me suis dit, genre, ça y est, là, on est proche du mur. J'ai écrit un article de blog, j'en avais pas écrit beaucoup, mais sur un médium où j'ai raconté vraiment, tu vois, tous les moments où on a vu vraiment le sol de près, quoi. Et d'ailleurs, je raconte que Mathieu, qui toujours était le premier stagiaire de Litchi et puis CPO et qui est aujourd'hui mon co-founder et CPO sur Résilience avec Jonathan et Nico, mes co-founders, il m'avait dit, tu sais Céline, tu m'as toujours dit qu'au pire, on se serait bien marré. Donc au pire, on se sera bien marré. Et je crois que ça nous a un peu resté. Tu vois, tu te dis, écoute, on fait au maximum et puis après, on verra. Mais on a vu beaucoup de fois le sol de près et je crois que c'est ça aussi, hein, l'aventure entrepreneuriale. Ouais. Il faut être prêt à
bien accroché.
Ouais, exactement, c'est up and down. Et c'est difficile de le percevoir tant que tu l'as pas vécu, tu vois.
Ah, c'est clair.
Moi, j'avais entendu plein de fois déjà à l'école des entrepreneurs qui étaient venus nous raconter ça, le roller coaster et tout, puis tu comprends pas vraiment bien, quoi.
Non.
Et en fait, le jour où tu reçois ton premier contrôle d'URSSAF, etc., tu comprends beaucoup mieux.
Ah non, mais franchement, je suis totalement d'accord. Franchement, moi, le podcast, ça fait 3 ans que je l'ai, je reçois beaucoup d'entrepreneurs. Franchement, j'étais sûre, quoi, que je comprenais ce que c'était la vie d'entrepreneur. Et en fait, c'est fou comme depuis j'ai je ne sais quoi, tu vois, la première grosse difficulté, vraiment la remise en question totale c'est sûr, c'était pas, tu sais, tu commences à te comparer à machin, à ceci, à voir tout ce qui va pas, à voir tout ce qui pourrait ne pas aller. Et au contraire, quand la fois d'après, ça se passe mieux, waouh, c'est tout ce que j'imaginais, c'est encore mieux. Enfin, et je trouve que c'est, ouais, c'est vachement dur. Je suis pas sûre qu'on s'y habitue. Si ?
Non.
Ok.
Enfin, en tout cas, moi, non. Moi, j'ai toujours ce truc, tu vois, de me dire...
Ouais, faut pas être trop sensible, hein. Non. Franchement... Ouais. Et comment t'as fait les moments où t'as, comme tu disais, t'as vu le sol, quoi. Comment t'as... Est-ce qu'il y a un dénominateur commun au fait que tu te sois relevé, tu vois, est-ce qu'il y a toujours quelque chose qui a fait que...
Je pense que c'est que la volonté, quoi. C'est que moi, j'avais... et c'est très sincère, hein, j'avais très, très envie d'y arriver. Mmh. J'avais vraiment ce truc, j'étais drivée par... Et probablement, d'ailleurs, parce que, tu vois, comme j'avais pas été très douée dans mes études et que j'avais beaucoup entendu que, franchement, j'étais pas bonne à faire grand-chose par l'éducation que j'avais reçue, pas parentale, mais scolaire, je crois que j'avais quand même beaucoup envie de prouver que j'en étais capable. Ça, ouais. Ça m'a beaucoup motivée. Ouais.
Et comment t'as fait pour... ne pas avoir envie de tout faire, ou en tout cas ne pas, enfin, tu vois, même identifier là où ta valeur ajoutée était, vu que comme t'as commencé solo et que voilà, t'avais en tête ce que tu voulais faire, enfin, tu vois, quand tu disais tout à l'heure, designer l'expérience utilisateur, puis préparer le recrutement, les levées de fonds, enfin, ouais, comment t'as fait ? Est-ce que tu faisais en fonction de ce que t'aimais faire ? Est-ce que tu faisais en fonction de, enfin, tu vois, c'est très difficile, je trouve, en tant que fondateur d'un projet. D'identifier ça.
Je pense que d'abord, le métier de dirigeant, c'est pas un métier où tu produis, c'est un métier où tu organises, accompagnes, structures, écoutes. Ton rôle, il évolue tout le temps. Et pour moi, la bonne façon de faire, c'est tu démarres quelque chose et puis ensuite, tu recrutes quelqu'un qui est meilleur que toi, qui va l'exécuter, tu vas encore un cran plus loin et tu lui donnes les moyens de le faire. Pour moi, c'est vraiment que de la structuration. Tu vois. Donc, moi, je suis quelqu'un d'assez structuré et c'est vrai que dans mon esprit, tu vois, tu construis des choses. Par exemple, tu vois, Résilience, j'ai beaucoup travaillé sur l'identité de la marque, sur son ADN. Qui était Résilience, tu vois, qui est un projet dans le domaine de la cancérologie. Et du coup, c'était la question, c'est comment on va positionner Résilience, quel est son rôle, et ma réflexion, ça a été, tu vois, de construire une sorte de sage qui est là pour transmettre de l'information, pour aider les patients, pour qu'ils comprennent mieux leur maladie, pour aider les oncologues, pour améliorer le choix du traitement en cancérologie. Et donc, tu vois, tout ce travail-là de réflexion, je l'ai fait, et aujourd'hui, je suis en train de recruter quelqu'un pour m'accompagner sur le community management et le content, par exemple. Tu vois. Donc, à chaque fois, je fais cette démarche-là d'initier les choses, structurer, recruter quelqu'un qui a de meilleures compétences que moi, et ensuite mon rôle, c'est que de lui donner les moyens de bien faire son job. Ça peut être des moyens financiers, ça peut être des moyens de coaching, de formation, d'équipe, de temps, d'écoute.
Ok, non mais très belle leçon, je trouve, parce que je sais pas, en fait je pense que moi j'ai un biais où j'aime tellement faire.
Ouais, mais ça c'est que... bien sûr, mais on est tous pareils.
Ah, ouais. C'est rassurant, mais donc il n'y a pas le choix, quoi. Il faut accepter le fait que tu feras plus
Et que quelqu'un d'autre va le faire, probablement différemment, peut-être au début moins bien même, et c'est un vrai challenge de structurer, d'embaucher, de transmettre les compétences, la vision, de laisser autonome, grandir, c'est pas facile. Et bien sûr, moi il y a plein de trucs sur lesquels j'adore faire par moi-même, parce que tu vois, en plus, c'est une forme de quelque chose de réjouissant. Ouais. Tu vois les choses concrètement, etc.
C'est une
et
récompense.
En fonction de l'ambition du projet, à un moment donné, il faut pouvoir aussi transmettre à quelqu'un pour que, tu vois, Hubert, le coach, il nous a appris un truc que j'ai trouvé génial, c'est plan, do, act, control. Et donc, plan, tu vois, tu dois le faire avec tes collaborateurs. Do, ça doit être réalisé par la personne pour qui c'est la mission. Act, pareil, puisque tu vois, il va prendre des décisions. Et control, ça veut dire que de temps en temps, tu peux aider, tu vois, en faisant une réunion pour faire un point de où est-ce que ça en est, apporter du soutien, et ainsi de suite.
Ouais, c'est suivre un peu, comme tu dis, des méthodes qui permettent peut-être de savoir où on va. Et bon, après, le recrutement, c'est sûr que c'est clé.
Et toujours se poser la question de... Pardon, je t'interromps.
Non, pas de souci.
Toujours se poser la question de où est-ce qu'on est le meilleur, tu vois. Quelle est notre valeur ajoutée, tu vois. Moi, je pourrais continuer à faire le community management de Résilience, par exemple, pendant des mois encore. Non, maintenant, j'ai conscience que, tu vois, mon temps, à un moment donné, si je veux aussi avoir une vie de famille, mes engagements associatifs, mes boards, et voilà, je dois aussi savoir l'organiser pour transmettre ces choses-là, même si j'adore être au contact de la communauté de patients, d'échanger avec eux, mais il faut que je le fasse un peu moins maintenant.
Ouais, c'est sûr. Mais bon, je trouve que ça a dû être particulièrement dur pour Litchi, où en fait, même du fait de ton âge, tu savais pas forcément encore où était ta valeur ajoutée, tu vois.
Ah non, mais c'est sûr, bien sûr.
Ouais. Est-ce que c'est les gens autour de toi qui te l'ont dit aussi, ou...
Alors, je pense que quand tu as un fonds d'investissement qui est au capital, ça aide quand même pas mal à structurer. Et moi, j'ai beaucoup été aidée, notamment par Emmanuel Lévy, qui était mon investisseur professionnel, enfin, toi, qui était là pour le fonds 360. Et donc, il m'a beaucoup, je pense, aidée de ce point de vue-là, tu vois, de temps en temps, à sonner une sonnette d'alarme, genre là, Céline, tu vois, t'es plus moins dispo qu'avant. Ça veut dire que, tu vois, il faut sûrement t'organiser différemment parce que, tu vois, aussi, le rôle d'un entrepreneur, c'est de pouvoir être super dispo pour plonger sur une opportunité d'acquisition, de recrutement, de nouveaux business à développer. Et si tu es sous l'eau, sous l'opérationnel, bah en fait, tu peux plus voir ça. Ouais. Donc, ouais, ça, il m'a beaucoup, beaucoup aidée. Et puis, j'essaye de faire le travail, tu vois, sur moi-même. Mais c'est encore aujourd'hui une question que je me pose tous les jours, bien sûr.
Est-ce qu'avec le recul, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu faisais qui n'étaient pas si utiles que ça? Mais tu vois, je dis toi, ça peut être toi à titre personnel, mais aussi à titre collectif, genre... Ouais. À un moment, je sais pas, on faisait beaucoup trop de réunions, ou à un moment, on s'est dit qu'on allait faire que des reports, alors qu'en fait, enfin, tu vois, je me dis, il y a peut-être des choses qu'on fait un peu tête baissée avec le recul, tu te dis, ça, franchement. Pas la peine.
Bah, je pense que de toute façon, tous les 6 mois, tous les 12 mois, ta boîte, elle change et tu la réinventes. Et donc, il faut revoir les process, les organisations. Il ne faut surtout pas hésiter à être audacieux, à changer les façons de faire, etc. Donc, on l'a beaucoup, beaucoup fait. La chance que moi, j'avais, c'est que moi, je m'ennuie assez vite. Donc, du coup, c'est vrai que, tu vois, une réunion au bout de 30 minutes, je commence à trouver ça long, quoi. Donc, c'était toujours un peu un running gag qu'on avait, notamment avec le COMEX de Litchi et Mangopé. C'est genre, bon, bah, Céline, elle s'ennuie. Donc il faut qu'on réorganise un peu la façon de faire et donc ouais, ça nous a obligés, je pense, à revoir nos façons de faire. Mais bien sûr, il y a plein de trucs, enfin, tu fais 90% de trucs que tu fous à la poubelle, en fait.
Bah, j'en parlais sur un autre podcast avec, pour le coup, des ex-étudiants en médecine qui ont tout plaqué pour se consacrer à la pâtisserie. Ah. et on parlait de la loi de Pareto, un peu du 80-20, ouais, où sûr. En fait, 80% de ce que tu fais ne rapporte que 20% d'efficacité bien et 20% de ce que tu fais peut en rapporter 80%, ouais. Et c'est ça qu'il faut identifier. Ouais. Mais je trouve que c'est pas toujours facile, quoi.
Non, mais
il faut savoir prendre du gros recul. Ouais.
Mais il y a une vraie maîtrise de l'agenda. Moi, je passe beaucoup de temps à regarder mon agenda, à y réfléchir, à le structurer, tu vois, à essayer d'avoir aussi du temps qui est dédié pour les choses urgentes et puis du temps qui est dédié pour les choses importantes.
Ouais.
C'est pas du tout la même chose.
Ouais.
Ouais. Et on confond tout le temps urgence et importance. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai une forme de... exigence avec mon agenda, et je sais, tous les soirs je regarde ce que j'ai le lendemain à faire. Enfin, je veux vraiment être dans la maîtrise, de comprendre, voilà, où je passe mon temps, et ça me permet d'être à la fois dans le court terme et l'immédiateté, et en même temps dans le long terme. Et tu vois, par exemple, avec mon associé, avec Jonathan, donc mon co-CEO, bah, on se parle tous les jours, lui il vit à Madrid, on se parle tous les jours, on est tout le temps aussi dans une phase de réflexion, tu vois. Donc c'est ça qui est difficile dans la vie d'entrepreneur, c'est que parfois tu es en train de faire un post Instagram, de répondre à quelqu'un dans l'urgence, et tu vois, de faire des badges par exemple, et d'autres fois tu es une heure après en train de discuter avec ton associé de comment tu vas changer le monde, quoi. Et en même temps, c'est ce grand écart qui est génial et qui est hyper excitant.
Ouais, c'est vrai, qui est un peu schizophrène aussi, mais
totalement schizophrène.
Comme tu dis, au moment, vous donne de tout. Mais je crois qu'on a peu souvent parlé d'agenda sur le podcast, donc ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a des, pareil, de fait de ton expérience, des petits tips que tu peux nous partager, ou en tout cas comment peut-être l'organisation, tu vois, que a évolué au fur et à mesure? Est-ce que maintenant tu fais en sorte de, tu vois, il y a un truc que je me dis de plus en plus, parce que bah, pour le coup, j'ai aussi plusieurs activités, et je pense que je suis très mauvaise pour savoir ce qui est important ou urgent. C'est à dire que, enfin, je vais faire ce qui est important pour moi, mais voilà, pour moi, répondre à un message bah, d'une CIS, ça peut être plus important que finir mon mémoire pour Sciences Po, tu vois. Donc je pense qu'il faut un peu revoir ses priorités.
Bah,
et
si
donc...
tu fais l'important plus que l'urgent, c'est plutôt mieux que l'inverse.
Ouais, c'est sûr, mais bon, enfin, c'est juste la notion d'important, tu vois, elle est relative, mais en tout cas, je me dis, est-ce qu'il faudrait pas que je consacre une demi-journée, je m'étais dit ça, je m'étais dit il y a 7 jours dans une semaine, bon 6, j'essaie de prendre mon dimanche off maintenant, et où bah, lundi matin ça va être dédié à faire brainstorm, lundi après-midi rencontre avec, tu vois, mardi préparation du podcast, enfin, je me dis c'est peut-être rassurant, en fait, parce que moi j'ai vraiment l'impression d'être toujours être genre, oh, faut que j'envoie le message à telle personne, ah, mais il y a aussi ce projet, ou il y a ci, oh, mais il y a ça, et donc vraiment t'as vite l'impression d'être noyé, quoi.
Bah alors, je pense qu'il n'y a pas une seule méthode, il y en a plein, et qu'il y a celle qui te correspond. Moi, j'ai du mal à bloquer les demi-journées. Je trouve que c'est lourd, tu vois. Parce que du coup, passer 4 heures concentrées sur un truc, déjà, c'est intense. Ensuite, du coup, ça veut dire que pendant une semaine, tu n'es pas dessus. Donc, moi, je fais plutôt par... tu vois, par exemple, je me consacre 1h30 par jour, que je bloque dans mon agenda, qui sont des rendez-vous avec moi-même. Donc, j'appelle ça, moi, je mets mission résilience. Et donc, du coup, ça me permet d'avoir du temps pour, par exemple, exemple, bah, tu vois, j'ai un board vendredi, de bosser sur les slides du board. Voilà. Donc, faire des choses qui ne sont pas dans l'urgence, tu vois, c'est pas pour le lendemain matin, 8h ou pour dans 5 minutes, mais qui sont des choses importantes. Donc, ça, j'ai 1h30 par jour, c'est bloqué dans mon agenda et normalement, personne ne me met de rendez-vous dessus. Je commence mes journées, tu vois, à partir de 8h30. Je peux faire des rendez-vous de 15 minutes. Alors, par téléphone, c'est plus facile, ou sur Zoom. C'est vrai que ça, pour le coup, je trouve que le Covid a vachement aidé au fait que, tu vois, tu sois plus efficace. Il faut aussi toujours garder du temps. Tu vois, je sais pas si c'est un quart d'heure, mais avant, tu vois, peut-être t'enchaîner une matinée de rendez-vous, 15 minutes, pour pouvoir faire tes mails, souffler. Il y a aussi le fait que, tu vois, d'être tout le temps derrière une conf call, ça demande vachement d'énergie mentale. Alors que ce qui n'était pas le cas avant, où tu avais quelque chose d'informel, de, tu vois, prendre un café, marcher, je sais pas, mais aller faire pipi, enfin, tu vois, des trucs un peu que aujourd'hui, tu n'as plus le temps de faire. Tu peux enchaîner 12 rendez-vous, tu es complètement aliéné et ça vide le cerveau. Après, moi, j'ai des jours un peu thématisés dans mon agenda. Donc, le lundi, c'est un jour qui est quand même plutôt dédié, tu vois, à l'équipe. Donc, on va faire un All-Hands avec toute l'équipe le vendredi matin. Donc, c'est 45 minutes où on est tous ensemble. J'ai mon COMEX aussi d'une heure avec mes co-founders. Donc, j'ai vraiment ces temps-là. Normalement, mardi, en fin de journée, j'ai deux one-on-one avec mes co-fondateurs CTO et CPO, Nicolas et Mathieu. Et puis, tous les jours, en fin de journée, j'ai un call avec mon co-CEO Jonathan. Le vendredi, je sais que par exemple, c'est une journée plus cool. On a mis un truc en place dans la boîte, j'espère qu'on va le tenir, mais c'est le vendredi après-midi, c'est No Meeting Friday. Donc, il n'y a pas de rendez-vous. Personne de la boîte ne prend de rendez-vous. Et donc, tu fais ce que tu as envie de faire. Ça peut être de la formation, ça peut être bosser, ça peut être faire du sport, ça peut être partir en week-end, ça peut être voir tes enfants. Et donc, moi, j'alterne un peu, tu vois. C'est-à-dire que, du coup, le vendredi après-midi, je sais que, tu vois, ça va être cool à partir de 14h30. En ce moment, je suis une formation sur le cancer du sein avec un MOOC avec Coursera qui est proposé par l'université de Yale. Bah, je sais que j'ai une heure, tu vois, pour faire ça, que j'ai le temps de redescendre un peu mes mails, de préparer le début de ma semaine prochaine. Et j'adore ce moment, quoi. C'est hyper agréable. Donc, ça oblige, du coup, à mettre un peu tout le monde sur le même rythme. Mais c'est des choses qui se font. Le mercredi, on déjeune tous ensemble avec l'équipe. Enfin, tu vois, donc, on a vraiment des temps forts. Et en fait, ça permet de rythmer le vie de l'entreprise. Il peut m'arriver, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, tu vois, de partir en sorte de semi-vacances. Donc, je bosse de 8h30 à 16h30 et après, tu vois, je décroche complètement. Voilà. Mais ça demande d'y consacrer beaucoup de temps et d'énergie. Tu vois, je fais des rendez-vous de 45 minutes normalement. Enfin, voilà, je peux continuer comme ça pendant longtemps. Moi, je pense que là, une bonne maîtrise d'un agenda, c'est une bonne maîtrise de son job de dirigeant.
Ok, non, mais je comprends totalement. Et là, tu nous parles, bah, du coup, de pas mal d'activités qui te demandent de l'énergie.
Ouais.
Est-ce que tu as réussi à identifier ce qui t'en donne?
Ouais.
C'est une vraie question.
Moi, je suis plutôt, même si ça va paraître étrange, de nature introvertie. Donc, en fait, moi, ça me coûte de
d'être expansive. Exactement. Et tout, ouais.
Donc, j'ai besoin de moments de calme, en fait, et de,
ouais,
même de solitude. Donc, j'ai besoin de faire du yoga beaucoup. J'essaye de faire du sport, tu vois, 4 à 5 fois par semaine, parfois plus. Mon objectif, c'est de faire tous les jours, sauf un jour, pour faire un peu un temps de pause pour ton corps. Mais, donc, je fais pas mal de méditation. J'aime beaucoup marcher. Et ça, c'est un truc aussi qui, je trouve, avec le Covid, le confinement, est dur parce qu'on a moins d'opportunités pour aller d'un rendez-vous à un autre à pied.
Ouais.
Ça m'a beaucoup manqué.
Ouais.
Et puis, voilà, après, j'essaye de, aussi les moments que je passe avec mon fils, c'est des moments qui me ressourcent, de famille et de voyage, beaucoup. Mais okay, ça manque là en ce moment.
Ouais, ouais.
Mais c'est une très bonne question parce qu'on se demande pas souvent qu'est-ce qui nous, tu vois, ressource. Et en fait, moi, c'est la paix de l'esprit. Enfin, je sais pas si c'est difficile.
Ouais,
à
non,
dire,
je vois tout ce que tu veux dire.
C'est le fait, ouais, de lire, de la nature, évidemment, beaucoup, et vraiment beaucoup le sport, en fait.
Ouais.
Et le ouais, yoga.
Non, mais je trouve ça rassurant. Tu vois, de t'entendre le dire et de ne pas culpabiliser par rapport à ça. Moi, j'essaye vraiment d'identifier aussi ça maintenant parce que je me rends compte que c'est le nerf de la guerre, en fait. Pour pas que ta jauge, ouais, elle se vide,
ouais,
comme c'est très épuisant ce qu'on fait et qu'on se donne à fond.
Ouais.
Faut vraiment identifier ça. Et pour le coup, moi, j'ai identifié même des il y a des choses dans le job, dans le travail qui m'en donnent, genre brainstormer.
Ouais.
Moi,
ouais,
ça me donne une énergie de dingue. Les podcasts, ça me donne une énergie de dingue. Mais il y a aussi le sport, vachement.
Ouais.
Mais j'ai de plus en plus tendance à m'en vouloir parce que du coup, bah, c'est une heure que tu passes pas à... Surtout que moi, j'aime bien le faire le midi. Donc en fait, c'est aussi un rythme qui va être en décalage parce que du coup, bah, c'est une heure où je suis pas dispo pour des rendez-vous, etc. que je compense largement le soir, tu vois, mais c'est difficile et donc c'est décomplexant de t'entendre dire bah, que toi aussi tu essaies de faire du yoga 5 fois par semaine, quoi.
Mais c'est un marathon. Ouais. Et j'ai écouté le podcast de Christine Lagarde par Léa Salamé. Et en fait, elle donc, est génialissime et elle explique très bien d'ailleurs que. Tu vois, elle a dû avoir une hygiène de vie quand même assez stricte et sérieuse parce que ça l'a beaucoup aidée. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas de secret. Tu vois, les grands dirigeants, ils ont. C'est rarement des gens. Tu vois, enfin, je trouve que tu as souvent des grands sportifs, tu vois, dans les grands dirigeants. Ouais. Et c'est, je crois, quand même assez nécessaire d'avoir cette hygiène de vie-là.
Ouais, je pense qu'il faut. En fait, c'est marrant, j'ai commencé un livre là d'une créatrice de contenu anglaise que j'admire aussi pas mal. Et c'est un livre sur la productivité, en gros c'est working hard, hardly working, pour un peu réussir à trouver cet équilibre en fait entre le fait de travailler mais pas d'être tout le temps. Et donc dès le début elle parle de la burnout generation, et c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté de en fait on a intériorisé le fait qu'on doit bosser tout le temps. Enfin franchement je sais qu'il y a vraiment un côté où notre génération, on a l'impression que chaque minute qui n'est pas passée à travailler, surtout quand tu développes un projet qui tient à cœur, où tu sais que personne ne le fera que toi. Et je sais pas trop comment arriver à. On n'a pas parlé, mais ça fera une parfaite transition après pour parler de résilience. Mais tu vois, je crois que tu as pris une année entre les deux.
Deux ans entre
Litchi et résilience. Où vraiment, en fait, j'avoue que. En fait, trouver la place qu'on a quand elle n'est pas au travail est très difficile parce qu'on a tendance, quand on lance un projet qui me tient à cœur, à se définir par ça. Ouais. Donc toi, comment ça s'est passé, quoi, ces deux ans où en effet, t'as appris à te redécouvrir et comment t'as fait pour... Franchement, j'imagine sortir de 10 années de travail intense à un projet où t'as donné corps et âme. Mais attends, moi, j'imagine que mes journées, je n'aurais plus de sens, où je me dirais, mais je ne sers à rien, mais là, il faut que je bosse. Enfin, le côté où, en fait, c'est tellement addictif de produire et de voir le résultat de ton travail et de voir un truc avancer. Voilà, si tu peux nous parler de ça, je pense que ce sera très intéressant.
Bah, il a fallu, si tu mets le doigt sur quelque chose que j'ai vraiment vécu, c'est qu'il a fallu décélérer, quoi. Il y a vraiment quelque chose où, tu vois, je suis rentrée dans un temps très différent. Et moi, j'avais assez peur parce que je t'avoue que beaucoup autour de moi, de gens qui avaient vendu très bien des boîtes et qui en étaient sortis, m'avaient dit, fais gaffe, après, c'est la dépression, quoi. Et alors, moi, je n'avais pas du tout envie de dire ça. Je n'ai pas trop envie, en fait.
Je n'ai pas trop envie de déprimer.
En fait, c'est pas trop, tu vois, je n'ai pas envie de savoir ce que c'est. Donc, on me l'avait vraiment beaucoup, beaucoup dit, genre, mais fais attention, Céline, puis toi, t'as vachement personnifié ta boîte, donc du coup, ça va être encore plus dur pour toi et tout. Et puis, moi, j'étais intimement convaincue, comme quoi on change beaucoup, que je ne réentreprendrais plus, toi, que ça avait été. Que j'avais eu beaucoup de chance, parce que très jeune, j'avais vécu la grande histoire de ma vie, tu vois, et que bah, du coup, c'était très cool, il y aurait plein de trucs après pour moi, mais en tout cas, que la grande aventure entrepreneuriale, tu vois, c'était sur ma période 25-35, quoi. Et donc du coup, bah, alors il y a plusieurs choses qui m'ont aidée. D'abord, j'ai quand même, je suis pas sortie de façon nette, tu vois, de l'entreprise. C'est-à-dire que d'abord, j'ai recruté Alix qui est devenue CEO de Litchi, donc moi j'en étais plus que présidente. Ensuite, Romain, mon associé qui était general manager de Mangopé, est devenu CEO de Mangopé, donc je suis restée que présidente, d'abord exécutive de la boîte. Et puis, tu vois, donc j'ai fait vraiment les choses petit à petit. Donc ça m'a beaucoup aidée. Ce qui m'a énormément aidée, c'est que j'ai eu mon fils. Ouais. Et donc, du coup, j'ai log out, c'est terrible, hein, mais au moment de mon congé maternité. Ouais. Et donc, je m'étais dit, je fais en sorte d'avoir formé, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais transmis à Romain Alix ce qu'il faut. Et puis, le jour où j'accouche, en fait, là, je sais que, tu vois, c'est la sortie opérationnelle, en tout cas, de Litchi et Mango. Donc, c'est vrai que j'ai été très prise par mon bébé, ma maternité, et le fait de le vivre, tu vois, à fond. Mais en même temps, j'ai rebossé assez vite parce que je prenais un rôle de présidente non-exécutive de la boîte. Et puis, il m'a fallu un peu de temps pour me rendre compte que finalement, tu vois, je n'avais plus le poids sur les épaules, tu vois, que j'avais posé le sac à dos et d'apprécier ce moment-là et d'apprécier le fait d'avoir de nouveau des nuits paisibles, tu vois, par exemple. Et c'est d'ailleurs une copine qui m'avait dit, alors ça fait quoi de plus être dirigeante ou CEO ou entreprendre et machin, et j'avais dit, je me souviens très bien, hein, et je me souviens de la sensation, je lui dis, je redécouvre ce que c'est qu'une nuit complète, tu vois, et sans l'inquiétude que t'as en tant que dirigeant. Voilà, et puis après, du coup, bah, j'ai eu la chance de faire plein de choses, et notamment de voyager, de, tu vois, profiter beaucoup de mes parents, de mon fils, d'avoir un temps différent. Et puis en fait, je me suis rendu compte que tu peux être rempli par par mois, tu vois. Et que less is more, peut-être.
Ouais, bah c'est rassurant, franchement, de se dire, parce que j'avais peur qu'il y ait un côté où, une fois que t'en as, t'en veux toujours encore, et du coup, t'es jamais satisfaite. Et quand on t'enlève en plus ça, tu te sens vide, alors qu'au contraire, toi, tu dis que apprend à
se sentir. Je me suis sentie vide, honnêtement. Ça, je suis passée par cette phase. Ouais. J'ai vraiment eu ce sentiment de me dire, c'est ce que je te disais, j'ai enlevé ma cape de super-héros, je l'ai mis sur les épaules d'Alix et Romain, et qui je suis, tu vois.
Ouais.
Et notamment, il y avait un truc qui me terrifiait, c'est je continuais, il m'arrivait de faire, tu vois, d'être invitée à des déj ou de faire des trucs de networking, ou j'en sais rien. Et j'avais la boule au ventre quand on me demandait de me présenter, parce que je savais plus qui j'étais, tu vois. C'est Céline Lazorte, j'ai été la fondatrice de Litchi, je suis plus. Enfin, tu vois, je savais plus dire qui j'étais.
Ouais.
Et en fait, paradoxalement, donc je suis rentrée au conseil d'administration de la SNCF en janvier 2020. Et donc, du coup, le jour où j'ai pu, c'est horrible, hein, mais socialement dire je suis administratrice de la SNCF, c'est quand même allé beaucoup mieux, tu vois.
Ouais.
Je me suis dit, c'est bon, dans l'esprit des autres, tu vois, je l'ai, la case cochée de qui je suis, quoi.
Ouais.
Et donc, du coup, on peut me foutre la paix. J'ai beaucoup apprécié le temps long, le fait de plus regarder l'heure pour déjeuner, le fait, tu vois, d'être beaucoup moins dans l'urgence, d'avoir un temps différent, quoi. Et ce qui aussi, et je dois être honnête, hein, je me suis aussi rendu compte que c'est au bout d'un moment, c'était un décalage avec les gens qui m'entouraient, tu vois, avec mes proches qui bossent, qui étaient dans un rythme, mon conjoint, mes potes, tu vois, où c'est vrai que moi j'avais une vie quand même, j'ai eu 2 ans d'une vie très très douce, et en même temps que j'ai savouré, et donc j'espère que je revivrai la même chose, tu vois, après résilience. Et voilà, moi c'est ma personnalité de sûrement de faire les choses à fond. Mais donc, de beaucoup en profiter au moment où ça m'arrive, quoi.
Comment tu continues à apprendre ?
C'est une bonne question. Comme je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement académique, tu vois, je vais être... D'abord, je n'aime pas lire des livres de développement personnel, ce n'est pas trop mon truc. J'aime beaucoup les podcasts.
C'est vrai.
Je suis très podcast. Je me suis même tentée à l'exercice d'un podcast, comme tu sais. J'écoute pas mal de podcasts. Je lis pas mal, mais plutôt de la littérature que, tu vois, je fais pas trop de bouquins de business. C'est pas trop mon truc, ça j'aime pas trop. Je me nourris beaucoup des autres, je pense. Tu vois. Je pose beaucoup de questions, j'interroge beaucoup les autres. J'ai toujours construit des relations assez fortes avec mes équipes. Là, du coup, avec mon co-CEO, avec mes investisseurs, je suis beaucoup dans l'interrogation, dans la compréhension, d'aller chercher les autres. Tu vois, je fonctionne pas mal comme ça, quoi. J'ai besoin de comprendre un peu ce que les autres ressentent pour, tu vois, aussi faire évoluer ma réflexion. Voilà, je crois.
C'est déjà beaucoup. En effet, je pense que l'interaction avec les autres, c'est tellement...
Ouais.
Et c'est ça, je pense, qui a manqué pas mal cette année, quoi. Et c'est pour ça que moi aussi, je dévore les podcasts, quoi, parce que je trouve que c'est une source d'accès à la connaissance, à la réflexion, qui est assez dingue et qui te fait voir même des univers que tu n'aurais pas vu autrement, quoi. Donc, c'est assez magique. Bon, alors, du coup, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, après ces 2 ans, tu t'es dit, là... Voilà, la mouche est revenue me piquer et même go back dans le secteur que tu avais évité à la base, le secteur médical, quoi, parce que franchement, la cancérologie, je suis assez admirative.
J'ai pas choisi simple. Bah écoute, c'est un peu l'histoire de la vie, c'est-à-dire que je te dis vraiment, moi j'ai dit à tout le monde, mais c'est fini, je ne réentreprendrai plus jamais, et tout le monde riait d'ailleurs, tu vois, et je disais non, mais c'est très très sérieux en fait, hein, vous avez pas compris, par hasard, la chance du débutant m'a souri, par hasard, je suis sortie sur le haut, tu vois, je vais surfer toute ma vie sur cette vague et ça sera génial. Et puis il se trouve qu'il y a eu la crise sanitaire, et donc... avec d'autres entrepreneurs, on a eu envie de, tu vois, d'être utile, parce que on trouvait, on était terrorisés, et moi la première, de voir l'hôpital public s'effondrer en souffrance, de voir des soignants dans des difficultés terribles, évidemment beaucoup de souffrance chez les patients, malheureusement des morts, enfin tu vois, ça m'a vraiment empêché de dormir, je me disais mais comment je peux être utile. Et donc, à quelques entrepreneurs, 7 exactement, on a créé le collectif Protège ton soignant. Entre mars 2020 et juin 2020, on a collecté de l'argent auprès de particuliers, fondations et entreprises pour acheter du matériel médical et de protection qu'on a offert à des établissements hospitaliers, des libéraux, voilà, toute profession médicale qui en avait le besoin et qui combattait la Covid. Et donc, il se trouve que le mouvement a pris beaucoup d'ampleur parce qu'on s'est retrouvé avec à nos côtés 140 bénévoles qui ont travaillé à temps plein. On a collecté 7,4 millions et on a livré à plus de 400 établissements du matériel, des millions de masques, des échographes, des pousses-seringues. Ça permet d'équiper des lits en réa, etc. Et j'ai vécu une aventure extraordinaire, extrêmement entrepreneuriale en fait, tu vois, on travaillait 8h à minuit comme des cons, enfin c'était...
Puis en plus là, avec l'incertitude
hyper
ever,
intense,
quoi.
On achetait du matériel partout dans le monde, qu'on faisait livrer, il fallait, tu vois, au milieu de la nuit, négocier avec des douanes, enfin ça n'avait aucun sens, quoi, c'était vraiment un truc complètement... hors de tout, quoi. Et puis évidemment, comme tout ce genre d'aventure, c'est que ça te donne beaucoup plus que tu vois tu ne lui as donné. Et donc moi j'ai re-rencontré, parce que c'est un milieu que je connaissais, mais le milieu médical, et j'ai été tellement émue des gens que j'ai rencontrés, de l'humanité, de la gentillesse, de la bienveillance. J'ai reçu des tonnes de lettres chez moi de services de réanimation, que ce soit infirmiers, infirmières, médecins, agents de service qui... Non mais vraiment, en revenant de vacances en septembre, je me souviens d'ouvrir des courriers de chère Céline Dasnord, chère protège ton soignant, un grand merci. C'était dingue. On avait, par exemple, je pense à un hôpital à Paris qui, tous les jours, le service de réanimation, quand on leur amenait du matériel médical, ils nous avaient fait des gâteaux chez eux pour nous remercier, tu vois. Donc, on repartait avec des gâteaux. Enfin, c'était franchement une aventure humaine incroyable. Et ça m'a appris plusieurs choses. Le fait que, en fait, je serais sûrement plus utile. Tu vois, au monde de la santé, pas en tant que médecin, parce que je m'étais même posé la question de reprendre mes études après l'ITCHI pour faire médecine, tu vois, donc ça ne m'avait pas quitté. Mais donc, je serais plus utile en tant qu'entrepreneur avec mes compétences, que j'avais très envie, du coup, de bosser dans le monde de la santé. Et puis, en fait, Jonathan, mon cofondateur, avait participé aussi à Protège ton soignant, et on s'était vraiment bien marrés ensemble. Il a un très beau parcours entrepreneurial dans les RH, et on était un peu au même timing tous les deux de nos vies. Et donc, on s'est dit, bah tiens, on a passé 4 mois à bien se marrer dans un secteur absolument génial avec des gens dingues, pourquoi on n'essaierait pas de lancer quelque chose. Et du coup, à partir du mois d'octobre 2020, on a choisi la cancéro, ça c'est vraiment le seul choix qu'on a fait en se disant le cancer, c'est la deuxième cause de mortalité dans le monde. Ce sera sûrement un jour la première. C'est une maladie terrible. Je pense que tout le monde en a été touché, soit directement, soit indirectement, par le cancer. Moi, j'ai perdu un de mes amis d'enfance à l'âge de 24 ans d'un cancer des testicules, en plus, qui est normalement un cancer dont on ne meurt pas. Ou en tout cas, enfin, c'est pas normalement, mais rarement en tout cas. Donc, j'ai été très marquée par cette histoire. Et donc, c'est vrai que voilà, c'était le seul choix finalement qu'on a fait, c'est de se dire essayons le secteur de la cancérologie. On avait un copain hématologue qui avait en fait initié à nos côtés Protège ton soignant, qui s'appelle Thomas Clausel, qui a fondé une start-up et nous a dit franchement les gars, si vous êtes intéressés par la cancéro, moi je vous mets en contact avec 10 grands spécialistes mondiaux de la cancérologie qui s'intéressent à l'intelligence artificielle et à la tech, et puis vous verrez bien s'il en sort quelque chose de ces entretiens. Et c'est vrai que Thomas nous a beaucoup aidé, tu vois, parce qu'il nous a offert toutes les portes de spécialistes en France, aux États-Unis, en Amérique latine, en Suisse, enfin vraiment partout. Et puis, on a fait une phase d'exploration. Et en fait, assez vite, on a compris que c'était les outils qu'il fallait réinventer et la façon dont on trouve l'information. Puisqu'en fait, il existe maintenant des centaines de traitements différents quand on a un cancer. La communauté scientifique produit beaucoup de connaissances. Et en fait, ça devient difficile pour un cancérologue de trouver toujours la meilleure information, le meilleur traitement. Donc, Résilience est un outil qui les aide dans le choix de la décision du traitement thérapeutique pour un patient, basé sur de la similarité patient. On utilise le machine learning, donc c'est assez technique. Et côté patient, on développe une application qui les aide à mieux comprendre leur maladie, parce que notre conviction, c'est qu'un patient qui est mieux informé, il est mieux soigné, et donc de lui permettre de mieux vivre sa maladie, notamment les effets secondaires, et puis de pouvoir, tu vois, en fait, être la passerelle entre le malade et le patient et son soignant, et transmettre l'information plus facilement. Donc vraiment, notre mission, c'est de réinventer la façon dont on soigne le cancer, très ambitieux. Il faudra probablement au moins 10 ans peut-être nos vies, mais c'est un sujet qui nous passionne, et on a la chance d'avoir rencontré l'Institut Gustave Roussy, qui est un centre de recherche et de lutte contre le cancer français, qui est basé à Villejuif, qui est le 5e centre mondial de recherche. et de cofonder le projet avec eux, puisqu'on a en fait on a créé cette vision en nous on connaît rien à la cancéro, tu vois, en comprenant leur quotidien, en passant du temps avec eux, et donc on cofonde le projet avec eux, et donc eux ont l'expertise médicale et nous l'expertise on va dire tech ou intelligence artificielle.
Et c'est pas trop compliqué de travailler du coup avec autant, tu vois, t'es passé de solo founder à t'as trois autres cofondateurs, ouais. T'as un institut qui est, si je le comprends aussi, cofondateur, ouais. C'est pas trop compliqué, en plus c'était introverti, enfin je sais pas, je me dis de passer voilà, de vraiment solo à collectif, j'imagine des avantages et des inconvénients dans les deux
bien
cas
sûr.
Quoi, mais ouais. Ça doit pas être facile.
Alors en fait ça, je retrouve des codes assez similaires que j'avais auparavant dans Litchi, parce que c'est vrai que même si j'étais solo founder, on a beaucoup dirigé la boîte collectivement avec le comité de direction, le comité exécutif. L'écueil que je n'ai pas, c'est la charge mentale qui n'est que pour moi, donc ça c'est plutôt chouette.
Ouais.
Et après, c'est vrai qu'on a des responsabilités très bien définies avec Nico, Mathieu et Jonathan, et que voilà, avec Jonathan, on porte la voix du CEO à deux, et puis Nico et Mathieu sont sur des parties product et IT, donc avec des champs de compétences quand même bien définis, et Gustave aussi sur la partie médicale. Donc ça demande beaucoup de communication entre nous, de coordination, mais du coup ça nous permet aussi d'avancer assez vite.
Ouais. Et là pour le coup, tu t'y vois rester aussi longtemps que possible, ou bah, j'imagine que tu viens de lancer le projet, donc ça compense pas la suite, mais comment tu démarres cette aventure, avec quel état d'esprit sur les 10, 20, 30 prochaines années?
Je les vois pas mal par cycle de 10 ans, si je dois être honnête. Donc, je vois du temps long, je le vois pas forcément. Je me dis pas que, tu vois, à 80 ans, je serai toujours dirigeante de résilience. Mais je vois, en tout cas, ouais, un cycle long. Parce que je pense que c'est un projet qui mettra du temps à s'initier, à se construire, qui a énormément de porosité de marché. On a aussi la conviction que c'est un outil qui sera utile partout dans le monde, même utile à d'autres maladies. Donc, voilà, c'est vrai qu'on voit
un
du
grand
temps
champ des possibles. Ouais. Et puis surtout, j'imagine que ce qui change aussi par rapport à Litchi, c'est que maintenant, tu as d'autres activités à côté et que tu as la possibilité, vu que tu as une équipe déjà sur résilience, de pouvoir plus administrer ton temps entre tes différentes activités. Bon, du coup, on n'aura pas énormément de temps d'en parler, mais tu m'as dit que tu en avais parlé pas mal sur le podcast Génération Do It Yourself, où tu es passé aussi, mais sur notamment ton engagement associatif auprès de Sista.
Ouais.
Comment tu répartis comme ça ton temps entre les deux aujourd'hui?
Alors, moi, j'ai besoin d'être très focus, en fait. Donc, du coup, je suis plutôt de nature concentrée, donc j'ai du mal à être sur différents sujets. Donc, en fait, moi, j'ai vraiment fait le vœu d'être, tu vois, la grande majorité de mon temps, et on va dire plus de 80% de mon temps dédié à résilience. Donc à côté, j'ai d'autres engagements que j'avais pris, et ça c'était quelque chose que j'avais notamment dit à la fois à nos investisseurs et puis à mon cofondateur, à mes cofondateurs, c'est que moi je me suis engagée au bord de la SNCF et au bord d'Iliad. Ça c'est des engagements auxquels je peux pas faire marche arrière, tu vois. Donc voilà, c'est assez important. Effectivement, il y a mon temps avec Sista qui évidemment aujourd'hui c'est quand même beaucoup diminué parce que l'association a pris beaucoup d'ampleur. On a une CEO, Déborah Loy, qui fait un super travail. On a une équipe de bénévoles incroyables. Donc de plus en plus je step back, et tant mieux, ça veut dire que tu vois, il y en a d'autres qui prennent le relais, et d'ailleurs à un moment donné il faudra aussi qu'elles soient au devant de la scène. Voilà. Et puis par exemple, j'ai arrêté de faire de l'investissement, donc j'ai investi dans une quarantaine de boîtes. Il peut m'arriver de continuer si c'est dans le secteur médical, mais sinon je fais plus de tout.
Ok. Ouais, donc
j'ai fait des choix,
quoi. Ouais, tout à fait.
J'ai fait des choix, et des choix assez radicaux, mais bon, je pense que c'est difficile pour moi enfin, en tout cas dans ma personnalité, tu vois, de tout faire. Mon esprit, il est vraiment,
hanté,
il est pris par résilience, tu vois. C'est quelque chose que j'ai vraiment dans la peau, quoi.
Ouais.
Donc j'adore, tu vois, le bord de la SNCF et Iliad, c'est génial parce que j'apprends énormément de choses et je me sens utile, et voilà, mais c'est sur des temps assez comprimés, tu vois. C'est une réunion de temps en temps, etc. Donc au contraire, ça me sort un peu de la tête de l'eau, et puis le reste du temps je suis en fait dédiée à résilience.
D'où l'importance de bien se connaître, quoi. Je pense que c'est vraiment une sorte de personnalité.
Ouais.
Bon, on arrive aux petites questions de la fin. Déjà, j'aimerais bien te demander s'il y a une ressource qui t'a particulièrement marqué, que ce soit un livre, un film, ce que tu veux, un TED Talk, mais voilà, quelque chose où ça t'a marqué. Et franchement, tu sais, tu disais que t'aimais pas trop le livre business, ça peut être un roman, hein. Ça peut être la saga d'Harry Potter, qui franchement apporte beaucoup de choses en termes personnels. Mais voilà, où t'as envie de recommander parce que tu penses que ça peut faire du bien aux personnes qui nous écoutent.
Je réfléchis.
Un podcast que t'adores ou...
Écoute, j'écoute pas mal de podcasts. En fait, ce qui est difficile, c'est d'en choisir un, je trouve. On a parlé de Femmes Puissantes. C'est vraiment un podcast que j'aime beaucoup. Je trouve que, tu vois, il donne le champ des possibles, quoi.
Ouais.
Et on nous le donne pas suffisamment. Et ça, c'est un truc quand même qui souvent m'exaspère un peu. Il y a un livre qui m'a énormément marqué, c'est King Kong Theory,
ouais.
Évidemment de Virginie Despentes, qui a quand même été un choc, je pense. Tu vois,
bah écoute, je ne l'ai pas encore lu.
Ah, c'est vrai. Tu me demandes envie vraiment de le lire. Pour moi, ça a vraiment été un choc dans la compréhension de la place des femmes aujourd'hui, quand même.
Ouais.
Et parfois, on ne se pose pas de questions, quoi. Et j'aime bien ce qu'elle nous... elle interroge beaucoup, tu vois, sur la façon dont la société est construite. Et en fait, c'est ça que je trouve, tu vois, intéressant, c'est être en capacité de toujours se demander, est-ce qu'on est au bout de nos libertés, tu vois, est-ce que... Voilà. Après, il y a évidemment les livres de Gaspard Koenig, qui est un ami aussi, et que j'ai beaucoup... dont j'adore aussi les articles, et qui interroge aussi beaucoup, tu vois, les limites de nos libertés, de notre société, de comment on pourrait vivre mieux ensemble, tu vois, de façon plus libre. Donc c'est ça mes recommandations.
Ouais, bah passionnant, mais c'est vrai qu'en effet, je suis d'accord avec toi, je trouve qu'on se pose pas assez de questions et je trouve qu'il y a pas assez de livres qui nous aident à questionner ce qu'on prend pour acquis, tu vois.
Ouais.
Et notamment dans la place des femmes, on en parlait, mais questionner notre rôle, nos envies, aujourd'hui comment on vit par rapport à aux hommes, ou notre place en tant que personne blanche ou personne racisée. Enfin, et il y a de plus en plus de contenu accessible, mais je pense qu'il y a une part de flemme, en fait, presque. Tu vois, je cherche le mot, c'est peut-être pas flemme, mais en tout cas...
D'habitude.
Bah, en fait, c'est peut-être inconfortable de se poser des questions, mais je trouve que c'est tellement nécessaire.
Ouais.
Donc, je suis ravie de ces recommandations. J'espère que le podcast, à sa petite échelle, aide peut-être à se poser des questions. Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais entendre au micro d'InPower ?
Ah bah, je pense forcément à Tatiana Jama, ma co-sista.
D'accord, ok, bah carrément. Et comme ça, on pourra parler en plus plus longuement de sista, de pourquoi, du comment et de tout ce qu'on vient de dire, même sur ce qu'on peut faire pour les femmes. Écoute, trop cool, je crois que je vais te poser maintenant la dernière question du podcast, la question signature. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie ?
Ah bah c'est être heureux.
Franchement ? Je crois que j'ai jamais eu de réponse aussi courte et aussi simple. Mais ça résume pas mal de choses, ouais. Trop cool. Bah écoute, merci beaucoup Céline.
Merci Louise.
Sur InPower. Pour les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, sur Résilience, sur Sista, où est-ce que tu veux qu'on les redirige ?
Sur le site de Résilience, donc c'est resilience.care, C-A-R-E. Et je me suis, comme je te l'ai dit, essayé à l'exercice du podcast, puisque j'interview des patients dans un podcast qui s'appelle donc Résilience, qui est disponible sur toutes les plateformes et qui raconte des tranches de vie de patients qui ont un jour croisé sur leur chemin le cancer.
Trop cool. Bah, je mettrai tout ça dans les notes du podcast pour qu'on puisse le retrouver facilement. Et j'espère à très vite.
Merci beaucoup, Louise.
J'espère que cette conversation avec Céline vous a autant inspiré que moi. Si c'est le cas, vous pouvez me le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant @CélineLZ et @MyBetterSelf pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Cet épisode est déjà fini, mais heureusement, il y en a beaucoup d'autres déjà disponibles sur InPower. Plus de 150 sont déjà sortis et de nombreux autres sont à venir, donc pensez à vous abonner avant de partir pour ne pas rater le prochain épisode d'InPower.